l'histoire du clan Israël, bien sûr. Ça, vous savez bien. Mais en réalité, cette paracha, elle est assez difficile à comprendre parce que on a l'impression que ici, tout n'est pas vraiment dit, quoi. Tout n'est pas dit parce que il y a une partie de des choses qui ne seront dites que par Moshe Rabbeinu dans le Sefer Dvarim. Cette paracha là, elle est rapportée aussi plus loin dans le Sefer Dvarim. Et c'est présenté d'une certaine manière un peu différemment d'ici en réalité. Alors, si vous voulez, on pourrait regarder dans le Sefer Dvarim, si vous avez un Sefer Dvarim devant vous. Hein? Enfin, dans le stone, c'est page 1000. C'est le verset 22, je crois. Alors, regardez, peut-être on lit d'abord ce qui est dans le Sefer Dvarim. Marqué, vous êtes, je vais lire en français, vous êtes tous approchés de moi, vous avez dit, envoyons des hommes devant nous, qu'ils espionnent le pays, qu'ils nous rapportent parole, c'est-à-dire le chemin par lequel nous monterons et les villes vers lesquelles nous irons. Et Moshe Rabbeinu dit à ce moment-là, donc vous voyez, c'est l'initiative des Bnei Israël. Les Bnei Israël, à un certain moment, ils disent, on veut envoyer des espions. Et la chose a paru bonne à mes yeux, et j'ai pris parmi vous 12 hommes, un homme par tribu. Et ces gens-là, ils tournèrent, montèrent sur la montagne, arrivèrent, etc., etc., et ils ont pris dans leurs mains le fruit de la terre, nous le descendirent, et ils nous ont rendu compte en disant, elle est bonne la terre que Hachem, notre Dieu, nous donne. Donc le rapport qu'ils ont fait sur l'expédition, c'est la terre est très très bonne, comme la terre qu'Hachem nous a donnée. Mais vous n'avez pas voulu monter, ça veut dire vous n'avez pas voulu aller en Israël, et vous êtes rebellés contre la parole d'Hachem, votre Dieu. Vous avez calomnié dans vos tentes, et vous avez dit, c'est à cause de la haine d'Hachem envers nous, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer dans la main de l'Amoréen, afin de nous anéantir. Vers où allons-nous monter? Nos frères ont fait fondre nos cœurs en disant, donc nos frères, c'est les explorateurs, dans leur rapport, ils ont dit un peuple plus grand et plus haut que nous, des villes grandes, fortifiées jusqu'aux cieux, et nous y avons même vu des enfants de géants. Et moi, dit Moshe, je vous ai dit, ne soyez pas brisés, ne les craignez pas, Hachem votre Dieu qui va devant vous, c'est lui qui combattra pour vous, comme tout ce qu'il a fait pour vous en Égypte sous vos yeux. Et aussi dans le désert, comme tu as vu qu'Hachem ton Dieu t'a porté, comme un père porte son fils, dans tout le trajet que vous avez fait jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit. Pourtant, sur ce point, vous ne croyez pas en Hachem, votre Dieu, qui va devant vous dans le chemin pour vous chercher un endroit pour vous y campier, par le feu la nuit pour vous montrer le chemin où vous irez, et par une nuée le jour. Et donc, voilà. C'est, après, il y a la suite, Hachem s'est mis en colère, etc. Bon, alors maintenant on revient. Donc vous voyez, c'est décrit ici comme, premièrement, l'initiative c'est le peuple demande. Moshe dit, ben, ça m'a plu, l'idée me plaît. Et c'est moi qui ai envoyé 12 hommes, un homme par tribu, pour composer donc le groupe espion. Quand vous lisez le texte du début de Shlach Lecha, chez nous, si vous revenez, les choses se présentent un peu différemment. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, Shlach lecha anashim, veyaturu et Eretz Kenan, Asher Ani Noten Livne Israël, Ish Echad Le Maté Avotav, Tishlachu, Kol Nasi Bahem. Et Vaishlach Otam Moshe, Midbar Paran, Al Pi Hashem. Kulam Anashim, Rachem Ne Israël, Heima. Donc tout à fait différent. Ici, c'est présenté comme si Hashem donne un ordre à Moshe et il lui dit d'envoyer des gens pour espionner le pays de Canaan que je donne au Bnei Israël. Et tu enverras un homme par tribu. Et tous les gens qu'on va envoyer, c'est des princes. C'est des princes de chaque tribu, quelque part. Et puis ensuite, c'est marqué que Moshe, effectivement, les a envoyés. Le point de départ, c'est, on était déjà sorti du désert du Sinaï, on est entré dans le désert de Paran. Ça se passe ici, le désert de Paran. Et Alpi Hashem. Et tous ces gens-là sont Rachem et Israëlem. Et puis, il y a l'énumération des noms de tous ces gens-là. Ça ne correspond pas du tout à ce qui est écrit au début du Sefer Dvarim. Alors, en fait, ça se complète. Et ce qui est censé nous mettre la puce à l'oreille dans cette affaire, c'est que Hachem dit « Shlach lecha ». Shlach, ça veut dire « envoie ». Lecha, c'est « pour toi ». C'est le même lecha que le lech lecha d'Abraham Avinu. Va, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi ici, Shlach lecha? Depuis quand Hachem dit à Moshe, envoie pour toi, il lui donne un ordre, il dit c'est pour toi, c'est pour Moshe. Alors en fait, le Shlach lecha, alors Rashi dit, c'est le deuxième Rashi, le datra. Merci. Maison. Hop là. Ça y veut pas. Si Rachidi, c'est très connu, le datra. Le kha, ça veut dire le datra. C'est selon ton date à toi, c'est ta compréhension des choses. C'est toi, tu veux les envoyer, alors envoie. Et alors là, c'est assez fort, c'est « Ani, eini metzavé lecha ». Moi, je ne t'ordonne pas. C'est un peu étrange. « D'abord, Hachem el Moshe les morts », ça commence comme toutes les fois où Hachem a donné les ordres à Moshe. Seulement, il dit « Shlach lecha ». Envoie pour toi, c'est-à-dire, moi je te donne l'ordre d'envoyer maintenant, mais en réalité, c'est comme si Hachem disait, okay, si tu veux que je te l'ordonne, mais en fait c'est pour toi que je le fais. Moi je l'aurais pas fait. Mais étant donné que toi, tu me le demandes en fait, alors j'accède à ta demande. Alors, ici, il y a un midrash. Le midrash dit la chose suivante. C'est une histoire. Ça, d'abord à faire, Shlach lecha anashim. Alors le Midrash dit, Afalpi she'amar HaKadosh Baruch Hu Shlach lecha, c'est Hachem qui donne un ordre. C'est comme ça qu'Hachem parle. Quand il parle à Moshe, c'est toujours introduit, Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Ça veut toujours dire, Hachem parle à Moshe avec l'ordre de répercuter ça au Bnei Israël. Alors le Midrash dit lo haya min HaKadosh Baruch Hu she'yelchu. C'est pas une idée de HaKadosh Baruch Hu que les gens partent explorer. Lama? Pourquoi? Shekvar amar lahem HaKadosh Baruch Hu Shifra shel Eretz Yisrael. HaKadosh Baruch Hu, il a déjà dit au Bnei Israël la louange de cette terre. Il leur a dit la terre est bonne, etc. Donc Hachem ne voit pas du tout pourquoi il faut envoyer les gens pour vérifier si la terre est bonne. Ki Hachem Elokecha meviyacha el haaretz, el eretz, pardon, etc. Renu omer ki haaretz asher ata vashama le rishta, c'est eretz zavat chalav, etc. Donc, alors, ici, le Midrash dit un truc. Écoutez bien. Ve'ad shehem be'mitzrayim. Les Bnei Israël, ils étaient encore en Égypte. Ça veut dire, on a affaire à des gens qui sont esclaves en Égypte. Amar. Alors, Hachem a dit, va'ered le'atzilo miyad mitzrayim ve'la'aloto min ha'aretz ha'i el eretz. L'Eretz Israël. Akatuv Omer, Vashem Olech Lifneem Yomam Bamudanan, Maush Lach Lecha, Anashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en Eretz Israël. Hachem leur a déjà dit, je vais vous sortir de l'Égypte, de l'esclavage, etc. Et là, Israël, Hen Bikshu Advarim Alalu. Les Bnei Israël demandent ça. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils sont pas encore sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Chez Bécha, chez Guiou, l'Irach est à Tantroumim. Et Tantroumim, pardon. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, quand ils sont arrivés aux limites ils sortent d'Égypte, là. Je beaucoup leur dit, Ré, Nathan, Hashem, Elokecha, Lefanech, et Haaretz. Beota Sha'a, et à ce moment-là, Nitkavu Israël Etzel Moshe, les Bnei Israël se sont pressés autour de Moshe, c'est marqué Vatikrevu Nelai Kulchem, c'est ce qu'on a lu dans le premier chapitre de Dvarim, Vatikrevu Nelai Kulchem, vous vous êtes rassemblés autour de moi, vous tous. Zeshumar Ezra, Velo Shamu El Mitzvotecha, Vimainu Lishmoa, Velo Zichru Niflotecha. Ezra, il dit déjà à ce moment-là, ils n'écoutent pas les mitzvot, ils refusent d'écouter, ils ne se souviennent pas de tout ce que tu as fait. Ils sont à peine sortis, déjà ils ont oublié, déjà ils n'écoutent pas. Renu Omer, la tour Laem Menucha, il s'agit ici de leur. Donner un endroit où ils vont pouvoir se reposer, où ils vont pouvoir s'installer, etc. Et eux viennent, ils viennent, ils disent Nishlecha Anashim lefaneinu, v'yachperu lanu. Ils viennent le sortir, on va envoyer des gens, ils vont voir pour nous. Et là, Shelohéminu. En fait, ils n'ont pas fait confiance à Hachem. Ils ne font pas confiance à Hachem qui les sort d'Égypte à ce moment-là. Ils font déjà pas confiance. Vechen be David. David aussi, il dit Loéminou. Bon, j'ai raccourci un peu. Alors, quand je vois au Bishmil, chez Loéman, ta. Donc. Vechen, quand je vois au Amar le Israël, Tova Aretz, Loéminou. Ils n'ont pas confiance. Et là, Amrou, Nishlecha, Nashim, Lefaneinu, Vierperu, Lanou. On veut envoyer des espions qui vont nous faire des rapports. Alors, quand je vous dis ici, il faut. Im, Me'akev, Ani, Alehem. Alors, Hachem dit comme ça. Si je les empêche d'envoyer, alors, Emomrim, Al-Shena, Tova. C'est parce que la terre est pas bonne qu'il veut pas nous la montrer. Il veut pas qu'on la voit avant. Et là, il roule. Bon, ok, qu'ils aillent voir. Ou bishvoa, Hashem, echad mehem nichnas letocha. Mais immédiatement, Hashem dit, je jure qu'aucun d'entre eux n'entrera dans cette terre. C'est marqué que, mais ça, c'est, ici, c'est mis en scène avant, n'est-ce pas? Alors que, Imiru et Haaretz, Asher Nishbati, la votam, ça s'est dit après qu'ils ont. Donc les Bnei Israël, dès le départ, ils n'y croient pas. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et on va voir plus loin aussi que les Bnei Israël, en réalité, c'est marqué dans le Midrash, il vient juste après, celui que j'ai lu, Kivan she'amru le Moshe nishlecha anashim lefaneinu, itril Moshe omed vetohe. Donc, il y a la proposition du peuple. Et Moshe Rabbeinu, il réfléchit, et il s'étonne quand même, et il dit, bon, il y a un problème ici. Efchar li la sot davar ad she emlach be bakadosh bokhu. Est-ce que je peux faire quelque chose sans consulter Hachem? Ils sont venus seulement chez lui, ils n'ont pas consulté. Alors, évidemment, alach venimlach. Il va et consulte Hachem. Amarlo, c'est insupportable. Amarlo, kach ve kach banecha mevakshim. Hachem, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, écoute tes enfants, voilà ce qu'ils demandent. Ils demandent à envoyer des. Amarlo, Kadosh Baruch Hu, en ze trila lahem. C'est pas la première fois. Bon, c'est pas la première fois, c'est la première fois qu'ils sont dans le désert, que ça veut dire, c'est pas la première fois. Alors attachez vos ceintures. Ad shehem b'Mitzrayim, iliguli. Ils étaient encore en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Et quand je leur ai parlé, ils sont fichus de moi. C'est marqué, Zula gam b'Eretz Mitzrayim. C'est un passage dans Hoshéa, le prophète Hoshéa. Limudim hem lekach. Limudim hem lekach. Ils sont habitués à ça. Je n'ai pas besoin de vérifier qu'ils sont comme ça. Je sais très bien qu'ils sont comme ça. C'est pas sûr que c'est un passouk dans Daniel qui dit Yadam Abrachoucha, Onora il sait tout ce qui se passe même dans la plus grande obscurité, parce qu'avec lui, il y a toujours de la lumière, donc partout. Donc Hachem, il sait tout. Amarlo Akadosh Baruch Moshe. Alors Hachem dit à Moshe, il lui dit, Moshe, yodea ani mahem. Je les connais. Je sais ce qu'ils sont. Et là, donc ça veut dire, moi je sais, et donc moi je les laisserai pas envoyer les espions. Et là, im bikashta. Mais si toi tu demandes, toi Moshe tu demandes, alors, shlach lecha tu demandes, à toi, je l'accepte. Tu veux demander, toi, tu demandes. Ça vient de toi, alors je te le donne. Tabikashta. Minaim shekektiv ele shmot haanashim asher shalach Moshe latour. Avant, c'est marqué que c'est, dans le texte, c'est marqué, chez nous, que c'est Moshe Rabbeinu qui les a envoyés. Mais en fait, c'est dans le texte ici, pardon, chez nous, c'est marqué le contraire. C'est marqué que Moshe les a envoyés sur l'ordre d'Hachem. Mais le Midrash, il garde que le fait que c'est Moshe qui les a envoyés parce que Hachem a dit, je te dis de les envoyer parce que c'est pour toi, parce que toi, tu le demandes. Ici, c'est compliqué, je veux dire, le Rashi sur place, il est encore plus terrible. Regardez la fin du Rashi.
Je crois qu'il y a des gens qui attendent pour.
Pardon?
Je crois qu'il y a deux personnes qui attendent pour rentrer.
Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi Trancœur, il n'en ouvre pas?
Et je les vois pas, moi, je sais pas pourquoi. Ah.
Alors, quoi, ça sert que je vous donne.
Je sais pas.
Ça sert à rien. Quoi, ça sert? Ouais, aussi bien de donner à Cannes.
Non, mais je sais pas, moi j'ai pas eu la.
Enfin, je vous ai pas donné le truc. Donc, il dit, moi, je te donne pas l'ordre de le faire, mais si tu veux, tu peux le faire. Le fichier Baou Israël, Ve'amrou, Nishlecha, Anashim, donc ici, Rashi, il cite le texte du Sefer Dvarim. Moshe Neymar, Batikruvu, Nalaï, vous êtes rassemblés autour de moi, tous, ils sont là, tous à réclamer d'envoyer des espions. Moshe Nimlach Bashrina, et Moshe, il a consulté Hachem, là, c'est ce Midrash, Rashi s'appuie sur le Midrash qu'on vient de lire. Et Hachem lui a répondu, Ani Amartin Ahem Shei Tova. Moi, je leur ai dit que le pays était bon. C'est marqué, mais Oni Mitzrayim. Je vais vous faire monter, sortir de la pauvreté d'Égypte. Et alors là, il dit, ça c'est terrible. C'est marqué, Chayehem, Shani noten laem makom litot. Mais dit vrai Amraglim. Le man lo irashua. Ici, Trachi cite ici un Midrash Tanhuma. Où Hachem dit, en vérité, je vais leur donner une possibilité, makom litot, c'est-à-dire la possibilité de se tromper dans ce que disent ou avec ce que disent les explorateurs. Et pourquoi je veux qu'ils se trompent? Parce que comme il l'a dit dans le Midrash, il a dit, je jure qu'aucun de ces gens-là qui réclament, aucun à part Caleb et Joshua, aucun d'entre eux n'entrera en Eretz-Israël. Et donc je vais les faire tomber dans un piège de telle sorte qu'ils n'entrent pas en Eretz-Israël. Et le piège, c'est Tisha B'Av. Le piège, c'est effectivement, les explorateurs reviennent et ils font leur rapport. Et vous vous souvenez, l'année dernière, on a parlé un peu de ça. On leur a demandé un rapport. Donc, on leur a demandé un rapport, ça veut dire, on leur a dit, ils avaient une liste, checklist de ce qu'il fallait regarder. Est-ce que la terre est fertile? Est-ce qu'elle n'est pas fertile? Est-ce que les villes sont super fortifiées, etc. Est-ce que les gens ont l'air d'être sûrs d'eux, etc. Donc, on vous a demandé, répondez, c'est tout. Alors quand on vous demande un rapport, a priori, on ne vous a pas demandé un commentaire du rapport. On vous a demandé un rapport, c'est tout. Ce que je vais en faire de ce rapport, c'est moi qui vais faire. Je vous ai pas demandé de me commenter le rapport. On avait traité ce problème déjà. Le problème du commentaire, c'est aujourd'hui le problème. C'est le grand problème. C'est qu'aujourd'hui, les informations sont les commentaires. C'est-à-dire les gens vous donnent l'information, mais qui est déjà vue à partir d'un point de vue bien précis. Vous ne savez pas du tout ce qu'il en est réellement. Vous savez comment eux ils commentent l'événement. On est dans une simulation du commentaire. On en avait parlé parce que il y a un célèbre rapport, en quelque sorte, qui, avec commentaire, c'est la situation de Yosef. Quand Yosef est amené devant Paro pour interpréter le rêve de Paro, Paro lui dit, j'ai entendu que tu es un interprète de rêve, voilà mon rêve. J'ai entendu, interprète le rêve. Et alors, vous lisez l'interprétation, et tout à coup, voilà mon Yosef, il termine l'histoire du rêve avec cette année de famine, etc. Et il continue. Paro, il devrait désigner un responsable, quelqu'un qui va faire des provisions pendant les années d'abondance pour qu'on crève pas de faim pendant les années de famine, etc. Et que je t'explique comment ce qu'il faut faire, etc. Franchement dit, imaginez seulement un seul instant qu'un type que Staline ou Hitler ou Pol Pot ou je sais pas qui ait demandé un rapport et qu'ensuite celui qui lui fait le rapport, il lui commente et il lui dit ce qu'il faut faire. Je pense que il y a des balles perdues qui se perdent, je veux dire, et encore, si c'est bien, si c'est des balles. Il est fou, comment oser parler comme ça à Paro? Alors la vérité, c'est que si on regarde bien, Yosef, il n'est pas en train de commenter le rêve. C'est ça l'interprétation du rêve. Il faut lui donner l'interprétation du rêve, c'est Hachem, c'est pas qui t'a fait rêver que à l'avance on t'annonce qu'il va y avoir 7 années de famine qui sont précédées par 7 années d'abondance. Le conseil qu'Hachem te dit, c'est prends des mesures. Et pourquoi le rêve 2 fois? Parce que ça va arriver très vite. Donc ça veut dire, c'est pas un commentaire, c'est la traduction du rêve, en fait. Alors, ou bien alors il faut dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yosef s'est permis de commenter et il lui est rien arrivé parce qu'Hachem l'a protégé. Ça fait partie des choses. Donc c'est un problème, savoir est-ce que Yosef commente. Ou est-ce que, en fait, c'est ça l'interprétation du rêve? On a tendance à penser la deuxième chose, mais c'est pas sûr. Certains, c'est un problème de commentaire. Et donc, là aussi, c'est un problème de commentaire. C'est bien ce qui se passe. Ils reviennent et disent, le pays, extraordinaire. D'ailleurs, on a apporté les échantillons des fruits. Par la suite, on n'a jamais vu que le Keretz Israël ait produit des fruits de cette qualité ou de cette grandeur, etc. Ça, c'est quoi? C'est incroyable d'ailleurs. Et par conséquent, voilà, s'ils s'étaient arrêtés là, ils avaient fait ce qu'il fallait. Mais ils ont ajouté, là il faut regarder parce qu'ils utilisent un mot qui est un impact, c'est un mot qui n'existe pas dans le reste de la Torah. C'est pas vrai. Ensuite, c'est pas vrai. Par la suite, il va y avoir utilisation de ce mot, mais c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude de voir ici dans ce contexte-là. Alors, ils disent effectivement, après avoir dit que c'est extraordinaire. Et vous prenez à la page 850 du Stone, ou alors au passage Kafret 28 du chapitre 13. Et après avoir dit, Zépiria, voilà le fruit de l'Eretz Israël. Ephes, qui az, Ama Yoshev Baaretz. Mais tout ça, très bien, mais le peuple qui habite cette terre-là, il est beaucoup trop fort pour nous. Donc, la terre est formidable, mais on ne l'aura jamais. On ne pourra pas la conquérir. On n'a pas les moyens de la conquérir. Le peuple est plus fort que nous. Azakou mimenu. Le peuple, il est plus fort que nous. Alors, pour ça, regardez la fin du verset Lamed Aleph. Les derniers mots. Razak ou Mimenu. Ce peuple-là, il est plus fort que nous. Mais vous voyez, le mot Mimenu, le verbe final, il est écrit sous forme de ou. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué, il n'y a pas les voyelles. Dans la Torah, c'est simplement écrit même nunvav. Et même nunvav, ça se lit aussi, ça peut se lire mimenu, mais ça peut se lire aussi mimeno. il est plus fort que lui. Et si ça voulait dire le peuple est plus fort qu'Hachem. Mais non. Donc c'est toujours le problème de. Ils ont dit quelque chose qui était ambigu dans ce qu'ils disaient. Et dans la graphie, par exemple, c'est indistinguable. On ne sait pas, d'après la graphie, s'il faut lire Mimeno ou Mimeno. Ça n'avait aucun élément pour faire la différence. Donc il faut dire que les deux sont complets, les deux sont à lire aussi. Plus fort que nous, ils sont même plus forts qu'Hachem. Et du coup, le peuple, tout le monde a pleuré, etc. Cette nuit-là, c'est la nuit de Tisha B'Av. Et donc, Tisha B'Av est devenue une date. C'est pas simplement que Tisha B'Av, on commémore le début de cette tragédie-là, mais on commémore, enfin, maintenant, nous, on commémore des choses qui ont eu lieu bien après. Bon, il y a la destruction des deux Beth Amikdash qui a eu lieu à Tisha B'Av, il y a des pogroms de l'époque de la des croisades. Dans les croisades, il y a eu aussi à Tisha B'Av, je ne sais plus laquelle ville ils ont massacré, quel juif, enfin, juif de quelle ville ils ont massacré. Après, vous avez l'Inquisition. L'Inquisition, qui aussi, là, ça commence toi, Tisha B'Av. La
La guerre
guerre,
de
la
14.
guerre.
La guerre de
Pardon?
14.
Il a dit?
La 14, la guerre de 14. La guerre.
Oui, la première guerre, oui. Bon, c'est assez énorme, quoi. Comme si le jour lui-même est devenu imprégné de cette sarotte. Alors, c'est une chose un peu difficile, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem dit, ils veulent y aller. Moi, je les aurais pas envoyés. Mais toi, tu demandes, alors je te fais, comme c'est toi qui demandes, alors j'accepte. J'accepte, mais c'est un piège. Ça veut dire quoi? La demande de Moshe, elle débouche sur un piège. On a déjà entendu quelque chose comme ça, hein? Qui est-ce qui a demandé leur Evrav? C'est Moshe. Moshe m'avait dit, je t'ai dit de ne pas les prendre. C'est leur Evrav avec le problème du veau d'or. C'est très, très compliqué. Hein? Enfin, j'y arrive pas vraiment. Je sais pas dire, puisque c'est toi qui demandes, alors je te l'accorde. Mais ce que je t'accorde, c'est un piège. C'est-à-dire, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, si ça tourne tellement mal, ben finalement, c'est la faute de Moshe. Ben c'est Moshe qui a demandé qu'on envoie les explorateurs. Hachem ne l'aurait pas envoyé. Alors, il y aurait peut-être eu des manifs, etc. Mais bon, il n'y aurait pas eu cette désespérance du peuple, désespoir de, etc. Là, je vous dis franchement, j'ai pas mal de mal parce que l'histoire du Erevra, c'est la même chose. Hachem dit, tu veux en prendre, tu peux les prendre. Je te dis qu'il sait pas bien. Mais alors, si c'est pas bien, alors dis-lui qu'il faut pas le faire. Moshe, c'est l'amour, celui que, voilà, c'est celui qui est tout proche d'Hachem et tout. Et quand il demande des choses, et qu'Hachem lui dit, c'est pas bien, et qu'il les lui donne. Alors, évidemment, on pourrait dire une chose de plus, quoi. On pourrait dire, écoute, t'as entendu qu'Hachem te dit que c'est pas bien. Je lui dis, si tu insistes, tu vas l'avoir. Mais n'insiste pas, il t'a dit que c'est pas bien. Alors, ni je comprends l'insistance de Moshe après qu'Hachem lui ait dit que c'est pas bien. Si le serment qu'Hachem a fait, qui est rapporté dans le Midrash ici, que Hachem dit d'emblée, il n'y en a pas un qui va s'en sortir, Comment mon cher Abénou peut entendre ça et les envoyer quand même? Il les a envoyés au casse-pipe, quoi. Il les a envoyés faire le malheur du peuple. Voilà. Les conséquences, c'est que, a priori, c'est pas sûr du tout qu'ils soient morts à cause de ça. Toute la génération va mourir à la suite de ça. Mais d'après le Gaon, il meurt pas à cause de ça. Le Gaon avait dit que ce que mon cher Rabbeinu avait obtenu comme pardon, c'est-à-dire que Hachem n'a pas détruit le clan d'Israël après le veau d'or, c'est le Gaon avait dit que c'était un sursis. Et avec la faute des Meraglim, le sursis est tombé. Mais la condamnation à mort, elle avait été dite au moment du veau d'or. Les Israël sont condamnés à mort après le veau d'or. Moshe Rabbeinu insiste et il obtient le pardon. Bon, il va obtenir le pardon, il va remonter, il va retrouver, Hachem va lui redonner les louchot, et il va redescendre Yom Kippour. Quelque part, Moshe Rabbeinu, il va gagner Yom Kippour. Israël va gagner Yom Kippour, l'existence de ce truc incroyable qui s'appelle Yom Kippour. C'est Kippour, c'est le fait qu'Hachem a pardonné au Bnei Israël. Mais c'était un sursis, après le Gaon. Et maintenant, ils vont mourir, alors peut-être c'est l'un dans l'autre. Parce que le problème, c'est, Rashi le rapporte, le premier Rashi, vous avez vu le premier Rashi, il dit, Lama nismecha parchat meraglim le parchat Myriam. Pourquoi le texte ici commence par les meraglim, alors qu'il avait terminé la semaine dernière avec le problème de Myriam et Aaron, qui avaient dit du lashon hara contre Moshe, et que Myriam s'était retrouvée couverte de tsaraat, de lèpre. On l'a attendu pendant 7 jours, etc. Dans le Midrash dit, Rashi ramène que la leçon de ce qui est arrivé à Myriam, c'est que quand on dit du mal, eh ben on est sanctionné par la lèpre. Et Rachidi veut et ces Rechaïm-là, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, velo la Moussa. Et ils n'en ont pas tiré de conclusion. Le Midrash, il dit un peu différemment. Le Midrash dit, de la même manière que Myriam a été frappée par le tsarat, par la lèpre, de la même manière, les Bnei Israël vont mourir. Ça veut dire, de la même manière, la lèpre, on ne meurt pas. Alors, il faut dire, ce qu'on a déjà dit souvent, c'est qu'il y a beaucoup de formes de mort. On peut être économiquement mort, on peut être socialement mort, etc. Et celui qui est frappé de tsaraat, il est socialement mort parce que on le chasse de tous les camps des Bnei Israël, c'est-à-dire qu'il se retrouve tout seul. Donc socialement, il est mort. Ça dure qu'un moment, mais socialement, il est mort. Et donc parce que elle est morte, Myriam est morte, eux aussi, ils sont morts. Aïe, bon, pourquoi c'est pas la même chose, la mort sociale, qui ensuite est une mort dont on se relève finalement, et le fait de mourir concrètement, comme eux ils sont morts. Alors peut-être que c'est l'idée que les Bnei Israël, ils sont pas morts comme ça. Ils sont morts avec la fameuse histoire, comme vous connaissez, que la veille de Tisha B'Av, tous les gens creusaient leur tombe dans le désert. Pendant 38 ans, 40 ans, ils ont creusé leur tombe, ils dormaient dans la nuit dans le trou, là, et il y en avait une partie qui ne se relevait pas le lendemain matin. Et donc, toutes les années, il y avait, jusqu'à ce qu'on ait épuisé toute la génération qui était adulte au moment de la sortie d'Égypte. Ceux-là sont morts, uniquement ceux-là d'ailleurs, Et pas les, ni les femmes, ni les enfants, enfin les plus jeunes. Donc, cette forme de mort, elle est peut-être semblable à la... C'est pas une mort immédiate, quoi, si vous voulez, c'est au fur et à mesure du temps. Et bon, mais c'était, on voyait bien que c'était la conséquence, puisque c'était ce jour de Tisha B'Av qu'ils mouraient. Et bon, donc il y a deux choses. Il y a le fait que Hachem accepte quelque chose qui s'est présenté comme une tova. Hachem fait à Moshe, puisque c'est toi qui demandes, je te le donne. Mais c'est un désastre. Je ne sais pas répondre à cette question. Et là, on a le même problème avec le Révra. C'est juste une question, je ne sais pas. Je ne peux pas dire mieux, je ne sais pas. C'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Est-ce que ça peut bien vouloir dire que... Alors, ben, je ne sais pas, ce que s'il fallait répondre... Ensuite, je dirais que ce qu'Hachem voulait montrer, c'est que c'est bien les hommes eux-mêmes qui font leur propre malheur, là. Alors, ça veut dire, alors, ce qui se passe, si on peut parler comme ça, c'est que, d'une certaine façon, les gens à ce moment-là, ils veulent envoyer des espions. Bon, il faut, et c'est pas des méchants garçons. Ce sont des tzadikim, je veux dire, ils ont été choisis par Hachem, et on dit clairement qu'au moment où ils ont été choisis, ce sont des tzadikim. Ça va mal tourner, après, mais au départ, ce sont des tzadikim. Et donc, on doit se demander, qu'est-ce que ça veut dire, on veut envoyer des espions? Hachem dit, ils me font pas confiance. Est-ce que c'est vrai qu'ils font pas confiance? Ils se trompent sûrement, mais essayez de, soyez les avocats de la défense, les Bnei Israël. Ils demandent à envoyer des espions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi ils demandent des espions? Pourquoi ils veulent envoyer aller voir par eux-mêmes? Plutôt que de faire confiance à Hachem. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon élémentaire, quoi, quelque chose? Je ne veux pas expliquer, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut dire de façon presque élémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous deviez défendre, ouais, vous faites le procès et vous êtes la défense. Alors, on vous écoute. La défense.
Du peuple qui fait la pression du peuple.
Non, mais ça, c'est Moshe qui aurait cédé. Mais pourquoi le peuple veut envoyer? Mabitom, ils sont tombés sur la tête. Hachem dit, je leur ai dit que c'était bon. Et jusqu'à présent, je leur ai fait toutes sortes de promesses et je les ai toutes tenues, ces promesses. Pourquoi ils ne me font pas confiance?
Joshua a envoyé aussi des méraglis, mais ça s'est très bien passé.
Que vous me traduisez, mais je n'entends pas bien.
Joshua a envoyé l'énergie et ça s'est très bien passé.
Oui, par la suite, il
Donc,
envoie des
c'est même en
meraglim.
soi, le fait en
Donc,
soi
ça veut
n'est
dire
pas parlant.
quoi? Alors, d'accord, allez jusqu'au bout. Si, quand Yoshua envoie les meraglim, ça se passe bien, ça veut dire que c'est bien d'envoyer les meraglim.
En
Donc,
soi, ce n'est pas a
expliquez-moi,
priori mauvais.
expliquez, essayez d'expliquer comment on peut justifier la démarche des Bnei Israël qui ici demande des meraglim.
Ça dépend de la Kavana. Si la Kavana, c'est de s'organiser pour gagner, c'est magnifique. Si la Kavana, c'est une autre Kavana, c'est pas magnifique.
Ça dépend de la Kavana.
Mais le problème, c'est pourquoi voulez-vous leur faire un procès d'intention qui n'ont pas une bonne kavana?
Ah ben, c'est la question.
Non, il faut expliquer quand même. Ils ont une cavana, disons. Je suis d'accord qu'ils ont certainement, ils ont une idée derrière la tête. Ils n'ont pas, c'est pas simplement l'envie d'envoyer des explorateurs. Pourquoi envoyer des explorateurs? C'est quoi la démarche de celui qui envoie des explorateurs?
Mais vous avez fait un cours sur le même sujet la semaine dernière pour dire que déjà à ce moment-là, ils étaient de mauvaise foi.
Les gens étaient de mauvaise foi, c'est pour ça qu'il fallait
Le cours de la
qu'ils
semaine
soient
dernière.
payés et qu'ils voient de la.
Mais c'est tout le peuple qui a demandé. Il n'y avait pas des gens qui étaient de mauvaise foi et pas eux.
Non,
Bon, on va voir si quelqu'un. Alors, ici, là, qu'est-ce que vous dites?
ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts.
Sont pas prêts?
Non.
Mais, et envoyer des. Quand ils envoient des explorateurs, en quoi ça va résoudre le problème?
Ça va les rassurer.
Ils sont toujours pas prêts, non?
Oui, ils seront peut-être pas prêts quand même. Ouais.
Ils sont comme ça, Thomas. Ils sont comme ça, Thomas.
Nous, vous dites rien?
J'avais pensé que s'ils avaient une intention positive, le fait d'envoyer des marines, c'était pour commencer à apprécier, à goûter, commencer à, oui, à apprécier, à jouer un peu de cette de la Terre, le fait d'y être.
Moi, j'avais pensé plus simplement, peut-être. Je pensais que il y a un problème général avec les Bnei Israël. C'est que le clan d'Israël, il est né en sortant d'Égypte. Et donc, il est, les premiers temps, c'est un nourrisson ou un tout petit enfant. Et les Bnei Israël, ils sont pris en charge par Moshe et Aaron. Bon, c'est d'ailleurs Moshe lui dit quoi, tu me demandes de m'occuper d'eux, est-ce que c'est moi qui les ai mis au monde? C'est on voit très bien que Moshe dit c'est quoi, c'est les nourrissons et c'est moi qui dois les nourrir. L'idée ici d'envoyer des explorateurs, même si effectivement ils savent que Hachem a dit que c'est bon, donc c'est bon a priori. Mais envoyer des explorateurs, c'est faire une démarche un peu indépendante. C'est un petit peu être adulte, quoi. C'est sortir de l'enfance. On va se prendre en main. Aïe, c'est très formaliste, c'est très formel, puisque c'est sûr que c'est bien. Et d'ailleurs, quand ils voient, ils reviennent, ils disent, ben évidemment, c'était très bien, comme Hachem l'a dit. La terre, elle est exactement comme Hachem l'a dit. Et donc, l'idée, c'est, on veut déjà être un peu adulte. Et c'est ça, enfin, nous, on va envoyer des explorateurs. Si on était complètement adulte, alors, voilà, on se prend en main, on envoie nous-mêmes les explorateurs. Ah, ici, on envoie les explorateurs, bien qu'Hachem nous ait déjà annoncé que tout va bien, mais ça va, on commence comme ça. Ça ressemble un peu au problème de la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'est les super grandes personnes. D'après ce que Moshe va dire à Aaron, Nadav et Avihu, ils sont plus grands que Moshe et Aaron. C'est ce que Moshe dit à Aaron, oui. Et Moshe, il dit pas des choses comme ça pour consoler Aaron des mensonges, ce qu'ils pensent. Ces gens sont très, très grands. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? On est à l'inauguration du Mishkan. Alors, on va amener de l'encens. L'encens, c'est, il faut brûler les parfums, puis au bout d'un certain temps, ça crée un nuage de bonne odeur. Et a priori, c'est à ce moment-là qu'on va apporter le nuage. On va pas. C'est comme si on amenait les gens. D'abord, on va leur servir à manger, mais il faut d'abord qu'ils passent à la cuisine pour voir exactement comment ça se fait. On va leur montrer les choses comme elles sont, quand elles sont finies, quand elles sont bien présentées. Et donc, c'est comme ça que, par la suite, on va amener le Ktoret. Et bien Israël, quand ils vont amener le Ktoret dans le cadre de la Avoda, ils vont brûler l'encens, ils vont amener le nuage. Déjà, on va allumer à l'extérieur, si on peut parler comme ça, et on va l'amener sous forme de nuage. Ça veut dire, on va mettre le feu, et puis ensuite, on va l'amener. Et Akash Boko a dit, puisque c'est l'inauguration, je veux qu'on sache bien que c'est moi qui envoie le feu. Quelque part, ne vous imaginez pas que vous faites quelque chose entièrement par vous-même. Donc, le jour de l'inauguration, c'est pas vous qui allez amener le feu, c'est moi qui envoie le feu. Mais Nadav et Avihu, ils ont voulu passer tout de suite à la vitesse de croisière, en quelque sorte. Ils voulaient pas passer par l'inauguration où c'est seulement des étincelles, quoi, quelque part, et que les hommes font rien, on est un peu passif comme ça. Ils ont voulu brûler les étapes. Parce que c'est comme ça que le Midrash les décrit. Le Midrash dit qu'ils marchaient derrière Moshe et Aaron, les deux, là, et ils disaient, quand est-ce que les deux vieux, là, ils vont passer l'arme à gauche pour que nous dirigions le clan Israël? C'est pas du tout qu'ils voulaient que les, qu'ils meurent, mais ils pensaient que le clan Israël était mûr maintenant pour être dirigé par des gens de la nouvelle génération. Pas des gens qui, donc, les enfants de ceux. Pas des gens qui sont sortis d'Égypte, etc. Puis eux, comme c'était ils venaient de naître, ils ont été pris en charge par Moshe Aaron. Nous, on n'a plus besoin de ça. Et le clan Israël n'en a plus besoin. Et ils sont morts parce que leur raisonnement était prématuré. Ils se sont trompés. Le clan Israël n'était pas encore prêt. Et donc, ils sont morts. C'est pas qu'ils ont fait une faute, c'est prématuré. C'est-à-dire comme quelqu'un qui mange le gâteau qui est préparé pour Shabbat, il le mange entièrement Erev Shabbat. Il n'y a plus de gâteau après Shabbat. Il y en a d'autres, ils mangent le tchont jeudi soir, plus de tchont. C'est tellement fort qu'aujourd'hui, dans les yeshivas comme ça, ils fabriquent un tchont pour jeudi soir. Et un autre pour vendredi soir, parce que on peut pas compter qu'il va en rester vendredi soir, si on fait. Alors, je crois que c'était ça. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que les Bnei Israël ont pensé, bon, voilà, on est assez grand pour, il faut qu'on se prenne en main. Et c'était, ils se sont trompés parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire encore. Donc c'est toujours cette histoire du prématuré. Et la faute d'Adam Arishon aussi, c'est prématuré. N'est-ce pas? Il a mangé du fruit de cet arbre-là, il aurait attendu quelques minutes. C'était Shabbat, il aurait pu le manger. Comme c'est, on est Erev Shabbat, juste avant Shabbat, quand il fait la faute. Attends 2 minutes, ça devient Shabbat, et Shabbat, c'est mangeable. Et Erev Shabbat, c'est pas mangeable. Prématuré. Prématuré. Le problème de, c'est un grand problème de s'imaginer qu'on est à un niveau où on n'est pas. Et ça, c'est gravissime. Bon. Et ça, je peux penser que c'est ça que les Meraglim ont pensé. Et ils se sont aperçus. Ah ouais, mais pourquoi ils ont vu qu'on n'y arriverait pas? Parce qu'ils se sont mis dans la tête de regarder les choses comme si ça dépendait de nous. Comme si on était tout seul à faire la guerre contre les habitants d'Eretz Israël. On est à 3 jours de l'entrée en Eretz Israël. Et donc, comme ils ont joué le jeu de on va se prendre en main, Et ils se sont pris en main, au sens où ils se sont dit, mais on n'y arrivera pas. Alors c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas y arriver tout seuls. Mais jamais on leur a demandé d'y arriver tout seuls. Hachem allait les aider. Hachem, il a Hachem, l'Hachem, c'est Hachem qui fera la guerre. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez peur? Mais ça, ils ont oublié. Ils ont oublié dans leur démarche, ils ont oublié que c'était pas à eux de faire la guerre. Ils ont regardé les choses, puis ensuite ils ont commenté à leur manière. Et alors, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le Mimeno, Mimeno? C'est un peu. Peut-être, ils sont dit comme ça, si Hachem, effectivement, voilà, il veut qu'on le fasse, mais c'est nous qui devons le faire et ça, on ne va pas y arriver. Alors, la question qui se pose, c'est comment comprendre ce qu'Hachem lui dit à Moshe? C'est Bikashta, c'est toi qui as demandé, alors je te l'accorde. Mais ils vont se casser la figure. C'est quoi? Quoi? Moshe Rabbeinu, il a trouvé que c'était bien? Ce qu'il dit. Ça m'a plu, là, votre idée. Mais je vais pas le faire sans demander à Hachem. Mais il demande à Hachem. Hachem lui dit c'est pas bien, et il le fait quand même.
On
Comme
ira.
si Moshe Rabbeinu lui-même pensait que, ouais, ce serait peut-être bien que les ministres se prennent un peu en main. Cette idée que Moshe Rabbeinu veut que les Bnei Israël soient plus actifs, c'est un peu cette idée que j'avais développée sur le fait que Moshe Rabbeinu a repoussé Matan Torah d'un jour. Il voulait que les Bnei Israël soient du côté de ceux qui donnent, qui soient vraiment actifs. Donc ce soit eux qui déterminent le moment où on donne le cadeau. Vous vous souvenez? Donc c'est la même idée. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui-même, Ata Bikashta, c'est toi qui demandes. Mais tu lui dis que ça va pas marcher, alors je comprends pas Moshe non plus. C'est-à-dire c'est-à-dire le dialogue entre les deux positions d'Hachem et de Moshe, l'un par rapport à l'autre, c'est incompréhensible. Hachem lui dit, c'est toi qui demandes, je vais te le donner, mais ça va mal tourner. Et du coup, alors Moshe dit, ok, je le prends. Et Hachem l'aide, Hachem participe. C'est lui qui dit qu'il faut envoyer, etc. Et on sait que ça va mal tourner. Il sait très bien, mais on sait que ça va mal tourner. Pas pour rien qu'il a changé le nom d'Oshéa en Yoshua. Il lui a mis un Yud de plus, d'accord, pour qu'Hachem te protège, en fait, il te sauve et que tu tombes pas dans le piège de. Donc il sait qu'il y a un piège. Bon, alors je sais que bon, c'est pas très, c'est un peu problématique quoi, si vous voulez, ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est parce que je crois que c'est vraiment problématique. Je pense que d'un autre côté, on comprend pas, Moshe, et je comprends pas Hachem non plus. Comprends pas Moshe, hein. Je les comprends pas. C'est bon, la petite thèse, mais il me semble qu'il y a un manque de, il manque quelque chose dans l'affaire. Ce que je suis en train de raconter. Comment c'est possible que...
Mais Rabbi, est-ce qu'on peut pas, excusez-moi, est-ce qu'on a le même problème effectivement avec le Rev Rav, c'est la même problématique. Donc ici, est-ce qu'on peut pas aller jusqu'à dire, même si c'est un peu peut-être osé, mais de dire que bah, ça fait partie de la formation du peuple, hein. C'est-à-dire voilà, pédagogie. Il est pas prêt, il est immature, c'est un bébé peuple encore, il faut le former. C'est dur, hein, mais bon.
Ouais, mais le problème, c'est que il y a toute une génération qui disparaît.
Oui, c'est dur, ouais.
Donc ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte, le Matan Torah, etc., à l'âge adulte, ils meurent.
Oui, mais vous avez dit la semaine dernière que même, enfin même pas là, vous avez dit que. Pour le Gaon, ils étaient déjà en sursis, alors.
Oui, ben d'accord. Quand on a un sursis, on se tient à carreau pour ne pas faire tomber le sursis, non?
C'est quand même une question récurrente, hein, depuis Adam. depuis Adam et Ève, c'est une règle.
Oui,
Ça
non, ça, on a
revient.
compris que, effectivement, cette histoire de prématurité, etc., ça a l'air d'être une constante. Parce que par la suite, les Bnei Israël vont dire, on veut retourner en Égypte. Mais c'est un fantasme. Mais cette histoire de retourner en Égypte, en fait, elle est là au moment de la sortie d'Égypte. Parce qu'Hachem dit, je peux pas les faire passer directement par le chemin le plus court, parce qu'il faut les passer par chez les Plishtim, et faire, il aurait fallu donc faire la guerre contre les Plishtim. Et si les Bnei Israël voient que il faut faire la guerre, ils vont avoir peur, et ils vont dire, mais on retourne en Eretz Israël. Et comme ils sont tout prêts, ils pourraient vraiment le faire. Et donc Hachem dit, on va faire un grand détour, on va éviter cette guerre-là, il va y avoir d'autres guerres, mais on va éviter cette guerre trop proche d'Eretz Israël. Et finalement, qu'est-ce qu'ils disent ici, maintenant? On est après la sortie, après Kriyat Yamsouf, après Matan Torah, après la guerre contre Amalek, etc. On veut retourner en Égypte. C'est plus possible maintenant. Donc c'est devenu un fantasme. C'était une réalité au départ. Hachem les a protégés pour que ça ne se fasse pas. Mais finalement, c'est devenu un fantasme et ils vivent avec ce fantasme. C'est évidemment, ils peuvent pas retourner en Égypte. Et du coup, ils vont inventer que c'était extraordinaire, qu'on essaie de manger gratuitement, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte, mais on a tout de suite eu envie de retourner en Égypte. Comment on peut avoir envie de retourner en Égypte? C'est la mort là-bas. Comment tu peux vouloir retourner en Égypte? Alors, il faut dire, qu'on puisse comprendre, c'est que dire on veut retourner en Égypte juste au moment où ils en sont sortis, ça peut s'entendre. Parce que les Bnei Israël qui sortent d'Égypte ne sortent pas après une année d'esclavage. Ils sortent après une année où ils n'ont plus travaillé pour Paro. Pendant la période des Makot, des plaies, d'Égypte, les Bnei Israël ne travaillent plus pour Paro. Par conséquent, bon, l'Égypte, c'est pas mal. Donc, à la limite, on pourrait retourner là-bas. On sera peut-être des citoyens de seconde zone, mais bon, on connaît, c'est des Égyptiens malgré tout. Ça fait 280 ans qu'ils sont en Égypte. Ils sont Égyptiens, ils ont l'habitude des crues du Nil, ils savent que, etc. Il y a une vie relativement facile en Égypte pour les gens qui ne sont pas esclaves. Et ils pensent que, voilà, bien sûr qu'on ne va pas retourner esclave. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne pourraient pas retourner autrement qu'esclave. Les autres ne vont jamais les accepter autrement comme esclave. Mais peu importe, c'est ce qu'ils pensent. Et après, ça devient un fantasme. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu, il y a un effet comme ça qui s'appelle, moi j'appelle l'effet colonie de vacances. On est en colo. Tout est mauvais, la bouffe est mauvaise, il n'y a pas d'activité intéressante, etc. L'année d'après, quand on commence à parler de la colo, c'était formidable, etc. Tu te souviens de ça, tu te souviens de ça, c'est extraordinaire. C'est un effet colo de vacances, après la colo. Pendant la colo, on râle, mais après, ah, c'est un peu la même chose. Ils sont un espèce de colo de vacances. Alors, vous me direz, ça va pas, là, ils étaient esclaves. Ouais, mais les derniers temps, ils n'étaient pas esclaves. Donc, l'Égypte, ils peuvent la fantasmer autrement qu'elle n'était en réalité pour eux. C'est-à-dire en présentant les choses comme si c'était bien, quoi. Voilà, pour terminer, je voulais juste vous rapporter une lecture complètement différente. Il y a une lecture hassidique de l'histoire des espions. C'est une lecture du Mea Shiloah. Lui, il lit comme ça. Il dit qu'en réalité, les Bnei Israël, ils voulaient pas se séparer de Moshe. C'était attaché à Moshe. Moshe qui, leur interlocuteur, c'était Moshe. C'est Moshe qui, chaque fois, intercédait, il a toujours obtenu, etc. Seulement, les Bnei Israël savaient deux choses. Ils savaient que Moshe ne pouvait pas entrer en Eretz Israël. Et d'un autre côté, il savait que En Adam Omed, un homme ne comprend ce que son maître lui a dit que après 40 ans. Et par conséquent, les Bnei Israël, ici, ils ne voulaient pas entrer en Eretz Israël. Parce qu'entrer en Eretz Israël, ça voulait dire que Moshe allait disparaître. Et ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas eu Moshe pendant 40 ans. Donc, ils n'ont même pas compris tout ce que Moshe leur a dit. Bon, puisqu'on est maintenant, s'il entrait tout de suite en Eretz Israël et que Moshe n'entre pas, eh bien, Moshe Rabbeinu, en fait, il a vécu depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son départ dans l'autre monde, il n'avait que 40 ans, 80 à 120. Bon, maintenant, on est 2 ans après la sortie d'Égypte. Donc, ils n'ont pas reçu l'enseignement de Moshe Rabbeinu après 40 ans, comme on dit. Donc, ils voulaient garder Moshe, bénéficier de la compréhension complète de l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Et pour ce faire, il fallait ne pas entrer en Eretz Israël. Et donc, le Mea Shiloah, il dit, c'était la raison pour laquelle ils ont fait ce descriptif tellement négatif. Ils ne voulaient pas entrer, mais pas comme on explique d'habitude, parce que ils savaient qu'ils allaient perdre le pouvoir, etc., que en Eretz Israël, c'est pas eux qui seraient les chefs des tribus, parce que ils étaient les bons chefs de tribus dans le désert, mais pas avec les nouvelles conditions en Eretz Israël. C'est ce que nous, on apprend d'ordinaire. Ce qu'on dit, et lui, il erre complètement différemment, mais ça, c'est toujours comme ça. Les chassidim, il erre tout le Sefer Bamidbar où il y a plein de problèmes à l'envers, quoi. Et ils vont expliquer, même donc, une phrase, c'est Zimri, etc., c'est mal à la tête. Mais bon, c'est une lecture intéressante, et c'est sûr que eux, ils ne veulent pas faire jouer au clan d'Israël un mauvais rôle, un rôle vraiment très pourri. Ils se sont trompés, c'était une erreur de, parce que si Hachem avait voulu que Moshe Rabbeinu vive encore 40 ans, ben, il y avait des possibilités, il aurait pu, lui, décider que Moshe Rabbeinu, ou bien qu'il entre en Eretz Israël, qu'il en ressorte après, éventuellement, pour mourir, peu importe. Il y avait d'autres solutions. On n'a pas besoin de prescrire à Hachem, ce qu'il doit faire. Il se débrouille tout seul. Ça va pas mal. Et donc ça, c'est leur erreur. Leur erreur, c'est d'avoir voulu, là aussi, c'est pas seulement prématuré, mais c'est vouloir imposer leur, compréhension des choses, alors que, évidemment, c'est pas comme ça qu'Hachem voulait que les choses soient. Sinon, il l'aurait arranger les choses autrement. Mais bon, ça s'entend, c'est ça l'idée de... Je pense qu'il faut entendre de temps en temps, même si c'est un peu difficile à entendre, ce genre d'explications qui sont pas du tout... Enfin, c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas été élevé comme ça, mais c'est pas... Mes maîtres m'ont pas expliqué comme ça, mais ça existe, c'est des grands bonhommes, c'est des grands bons hommes qui ont dit les choses de cette manière-là, c'est une autre façon de voir, c'est ainsi d'autre. C'est un peu de la cabale, nous sommes proches de Kabbalah. Voilà, on s'arrêtait là.
Merci.